Voici une question qui requiert l'attention particulière de tous les croyants. Qu'est-ce que Dieu pense du désordre dans les assemblées locales? La parole de Dieu va nous donner une réponse qu'il faut absolument retenir aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a encore de très bonnes questions à poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Je pense que tous les croyants vont aimer connaître les réponses que la Bible va nous donner. Voici les questions. Est-ce que la Bible nous demande de célébrer la naissance de Jésus? Est-ce que l'Église du Seigneur est un bâtiment? Qu'est-ce qu'une secte? Qu'est-ce que Dieu pense du désordre dans l'assemblée locale? Qu'est-ce qui produit les controverses au sujet du repas du Seigneur? Quand nous célébrons la Sainte Cène, que signifie l'expression « discerner le corps du Seigneur » Est-ce que Dieu juge ceux qui profanent le repas du Seigneur? Restez avec nous, le grand livre de Dieu en a beaucoup à dire en réponse à nos questions. Et c'est le pasteur Régent Joly qui va nous apporter ce précieux enseignement dans quelques instants. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il nous parle lui-même par la bouche de son serviteur. Prions. Oui, Seigneur, on veut pas que la parole vienne d'un homme, on veut qu'elle vienne de toi. On sait que ton serviteur est là à ta disposition, il veut que tu l'utilises, alors parle par sa bouche, mon Dieu, et instruis-nous, selon ta parole, par ton Esprit Saint. Touche nos cœurs, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons examiné les instructions de Paul au sujet du port du voile et de la longueur des cheveux des chrétiens de l'Église de Corinthe. Nous avons examiné le contexte culturel dans lequel furent données les instructions de Paul. Puisque ce sont les prostituées qui ne portaient pas de voile à Corinthe, Paul demande aux chrétiennes d'en porter un lorsqu'elles participent à une réunion de l'Église. C'est la chose bienséante et convenable à faire dans cette culture. Ainsi, la femme s'affiche comme une dame respectable et non comme une prostituée. Il en va de même avec la longueur des cheveux. Paul ne fixe pas une longueur de cheveux pour les hommes et les femmes, mais encore, il faut tenir compte de ce qui est bienséant dans la culture de l'époque. La tenue vestimentaire et la coiffure des chrétiens doivent indiquer un respect de l'autorité établie par Dieu dans l'Église et le mariage. Finalement, si quelqu'un veut contester les recommandations de Paul, celui-ci invite l'Église à exercer son autorité plutôt que de s'enliser dans des discussions interminables et inutiles. Lorsque nous cherchons premièrement la gloire et l'avancement du royaume de Dieu, tout prend sa place. Aujourd'hui, nous terminons le chapitre 11 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Le repas du Seigneur, ou la Sainte Cène, est la plus haute forme d'adoration. Cependant, à Corinthe, le repas du Seigneur avait sombré dans le désordre au point qu'il était presque devenu blasphématoire. Si Paul n'était pas en train de corriger un état de choses lamentables, cette section aurait pu être incluse dans la section des éléments spirituels de l'Épître. Donc, le texte d'aujourd'hui est inclus dans la section des éléments charnels. Trois des quatre évangiles rapportent l'institution de la Sainte Cène et elle est répétée dans cet épître. Notez que la Bible ne nous demande jamais de célébrer la naissance de Jésus, mais elle nous demande, nous ordonne même, de commémorer sa mort. Paul accordait une grande importance au repas du Seigneur. Au verset 23, il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Paul a reçu cet enseignement au moyen d'une révélation directe. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Paul reçut l'Évangile par une révélation, et c'est ainsi qu'il reçut aussi les instructions au sujet du repas du Seigneur. Paul n'était pas présent lorsque le Seigneur Jésus l'institua juste avant d'aller à la croix. Le Seigneur lui enseigna tout par une révélation spéciale. Il peut être difficile de faire un lien entre ce que Paul enseigne à l'Église de Corinthe et notre célébration de la Sainte-Sainte, car nous sommes dans des contextes socioculturels différents. Au temps de l'apôtre Paul, le repas du Seigneur était précédé d'un repas social, un repas ordinaire. Il devait se prendre quotidiennement dans des foyers privés. C'est ce que nous lisons dans le livre des Actes. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Actes chapitre 2, versets 46 et 47. Aristide, un philosophe athénien qui vécut là, dans la première partie du deuxième siècle, a décrit la façon d'agir des chrétiens de son époque. Chaque matin, et à n'importe quelle heure, ils louent et glorifient Dieu pour sa bonté envers eux. Et si une personne juste parmi eux décède, ils se réjouissent et remercient Dieu. Si un nourrisson ou un très jeune enfant décède, ils glorifient Dieu, car une personne a passé de ce monde sans commettre de péché. Voilà ce qu'un observateur de l'extérieur de l'Église a rapporté. Ceci se produisit au deuxième siècle. L'Église de Corinthe accompagnait la Sainte-Cène d'un repas d'Église. C'est semblable à la célébration de la Pâque qui eut lieu dans la chambre haute. Le Seigneur institua la Sainte-Cène après avoir mangé la Pâque avec ses disciples. Il prit le pain et le rompit, et alors que la célébration de la Pâque se terminait, il institua quelque chose de nouveau. De nouveaux symboles remplaceraient la célébration de la Pâque dans l'Église. Les églises, les clubs sociaux et les grandes compagnies invitent souvent leurs membres ou leurs employés à un banquet. De nombreuses personnes critiquent les banquets d'Église, et cela est justifié lorsque ce n'est qu'un simple événement social au cours duquel Dieu n'est pas adoré ni glorifié, et qu'on lui accorde que quelques minutes dans le programme de l'événement. L'Église primitive organisait des repas pour avoir de la communion fraternelle, et ces repas étaient appelés des agapés. Ceci faisait partie du koinonia, la communion fraternelle de l'Église. La rencontre sociale se terminait par le repas du Seigneur ou la Sainte-Cène. Les deux étaient séparés, mais le repas agapé précédait toujours le repas du Seigneur. Plus tard, les deux types de repas furent séparés. Aujourd'hui, sauf dans quelques rares confessions religieuses, les repas agapés se font occasionnellement. Donc, nous ne verrons pas dans nos églises le problème qui s'est manifesté à l'église de Corinthe, mais nous pouvons tout de même en tirer quelques leçons. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Les Corinthiens auraient dû se rencontrer afin de recevoir des bénédictions et grandir spirituellement, mais ce n'était pas le cas. Verset 18. Et d'abord, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. L'Église est une assemblée de croyants, non un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment comme dans notre culture contemporaine. L'Église, ce sont tous les membres qui forment le corps de Christ. Ils se regroupent en assemblée locale, ce qu'est l'Église visible. Lorsque les chrétiens de Corinthe s'assemblaient dans un foyer pour un repas, les divisions et les factions mentionnées au premier chapitre se manifestaient. L'esprit de division était apparent. Verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Une secte signifie un groupe d'une opinion différente dans l'Église. Ce qui est appelé une division dans le verset précédent est appelé secte dans celui-ci. En fait, le mot grec traduit secte et hérésis, duquel nous tirons le mot hérésie. Le mot hérésie signifie un choix qui est fait. À cette époque, Il n'avait pas le sens négatif que l'on rattache au mot secte aujourd'hui. Il signifiait une école de pensée. En effet, l'Église primitive n'était pas encore divisée en différentes confessions religieuses et il n'existait pas de nombreuses sectes se disant chrétiennes comme aujourd'hui. Donc, Paul parlait de différences d'opinion sur certains sujets entre les croyants. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 7, nous lisons « Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. » Dieu permet qu'il arrive des scandales afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels. Donc, Dieu éprouve son Église. Verset 20. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Il semble que le but premier des rassemblements n'est plus de prendre le repas du Seigneur, mais de bien manger et d'avoir du bon temps. En fait, il n'était plus approprié de célébrer le repas du Seigneur après le repas ordinaire à cause de la conduite des Corinthiens. Verset 21. Car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Dieu n'approuve pas le désordre dans les assemblées locales. Que c'est triste! Un pauvre vient au repas, et peut à peine apporter une bouchée de pain. À côté de lui, un riche dans l'abondance n'a même pas à cœur de partager son repas avec lui. Ainsi, il n'y avait pas de véritable communion entre les frères. La situation était trop lamentable. Et ce n'était pas tout. Verset 22. « N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerais-je? En cela, je ne vous loue point. » Tous ceux qui n'étaient pas là pour véritablement glorifier Dieu en prenant le repas du Seigneur auraient dû demeurer chez eux. Ils divisaient l'Église et brisaient la communion entre les frères par leur comportement. Il y en a même qui abusaient de l'alcool pendant le repas agapé. Ils n'étaient même pas en état de se commémorer la mort du Seigneur Jésus. Paul le répète. « Vous louerais-je? En cela, je ne vous loue point. » Verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. » De nombreuses personnes insistent pour célébrer le repas du Seigneur exactement comme le Seigneur Jésus l'a fait. Ces gens le prennent pendant le service de 11 heures. Si vous voudriez faire exactement ce que le Seigneur Jésus a fait, il faudrait le prendre pendant la nuit. Le repas de Pâques se prenait pendant la nuit, chers amis, et c'est à la fin de ce repas que le Seigneur a institué la Sainte Cène. Il fut trahi ce soir-là. Lors du repas, il prit du pain. Verset 24. Et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps. » qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Rappelons-nous, Paul n'était pas présent dans la chambre haute. Il a reçu les instructions au sujet du repas du Seigneur directement de celui-ci. La célébration fut instituée le soir, où les forces de l'enfer s'assemblèrent pour faire périr le Seigneur. La simplicité et le bon sens de ce repas sont extraordinaires. Notez que le texte dit « après avoir rendu grâce ». Le Seigneur rendit grâce alors qu'il était sur le point d'aller à la croix. Le péché frappait à la porte de la chambre haute. Il exigeait la tête du Seigneur Jésus. C'est à ce moment-là que le Seigneur rendit grâce à Dieu. Ensuite, il le rompit. Il y a plusieurs opinions au sujet de la manière dont le pain doit être servi pendant la célébration du repas. Le rompons-nous avant de le servir ou en le servant? Prenons-nous une seule miche de pain ou en prenons-nous autant que nécessaire? Utilise-t-on du pain avec ou sans le vin? Les controverses au sujet du repas du Seigneur sont dues à notre immaturité. Oui, ces interminables discussions sont en fait un signe d'immaturité spirituelle. On s'intéresse à la forme du rituel et on oublie son véritable sens. Il a pour but de nous rappeler la mort de Jésus à la croix, l'événement essentiel du christianisme. S'arrêter à la forme détourne notre attention de ce véritable but. Nous ne sommes plus touchés par ce rappel de la mort de Jésus à la croix, et nous ne sommes pas bénis par cette forme de proclamation de l'Évangile. Elle devient un rituel où la forme prend plus d'importance que sa propre signification. Nous avons l'impression que le rituel nous mérite la bénédiction de Dieu et que nous la perdons si nous ne respectons pas strictement la forme, que l'on croit plus biblique que les autres. Je ne pense pas qu'une grosse église, avec de nombreux membres, puisse célébrer le repas du Seigneur exactement comme l'a fait le Seigneur Jésus avec une douzaine de disciples. Surtout que les églises ne s'assemblent plus dans les foyers, mais dans des bâtiments. Le fait de rompre le pain rappelle cependant que le repas est un partage. Ce n'est pas du chacun pour soi comme il se faisait à Corinthe. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Le pain rappelle la crucifixion et la coupe rappelle la nouvelle alliance. Encore une fois, les chrétiens sont divisés au sujet du contenu de la coupe. Était-ce du jus de raisin ou du vin alcoolisé? Si nous lisons les textes des Évangiles, le Seigneur a terminé l'institution de la Sainte-Cène en disant « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » L'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 29. Certains pensent que le fruit de la vigne est du vin, d'autres du jus. Et si c'était du vin, du rouge, du blanc ou du rosé? Encore une fois, allez-vous diviser les églises à ce sujet ou faire preuve de maturité spirituelle en acceptant l'habitude qu'a adopté l'église que vous fréquentez? Nous venons en présence de Dieu, car son Fils a versé son sang pour nous. Le corps de Jésus était la coupe qui contenait son sang. Il est né afin de verser ce sang pour nous. L'apôtre nous rappelle une nouvelle fois que nous avons le pardon de nos péchés parce que Jésus a accepté de verser son sang. Si Dieu est miséricordieux envers nous, c'est parce que son Fils a versé son précieux sang pour nous. Jésus ne nous fait pas entrer au ciel en cachette, sous la couverture de la noirceur. Le Seigneur Jésus nous fait entrer, comme des fils, par la grande porte, la porte principale, chers amis. Il peut agir ainsi car il a payé pour nos péchés et il a pourvu aux exigences d'un Dieu saint. Rappelons-nous de cela, alors qu'aujourd'hui on pense généralement que Dieu ferme les yeux sur le péché et qu'il ne fait rien à ce sujet. Il a fait quelque chose. La coupe représente son sang, le sang de la nouvelle alliance. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En participant au rituel, nous regardons en arrière vers la crucifixion. Nous sommes en communion avec un Sauveur vivant présentement et nous regardons vers son retour. Le Seigneur nous a laissé une cérémonie simple plutôt qu'un énorme monument de marbre ou de métaux précieux. Versets 27 à 29. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Que veut dire discerner le corps du Seigneur? En fait, le pain et le fruit de la vigne sont les symboles du corps et du sang de Jésus-Christ. En les prenant, nous rappelons l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et ainsi nous proclamons aussi l'Évangile. Le Seigneur se révèle à ceux qui y participent avec piété. Dans ce sens, le repas du Seigneur est plus qu'un simple symbole. Il est aussi une source de bénédiction. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre en sont morts. Dieu juge ceux qui profanent le repas du Seigneur. Manger le pain et boire de la coupe indignement signifie le faire avec désordre. Indignement est un adverbe. Le mot s'applique à l'action et non aux personnes y participant. Les conséquences peuvent être désastreuses pour ceux qui profanent le repas du Seigneur en y causant du désordre. Versets 31 et 32. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Si les croyants ne s'examinent pas et ne se jugent pas, le Seigneur le fera alors pour eux, et il châtiera. Le Seigneur nous châtie afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Puisqu'il jugera le monde dans l'avenir, il doit s'occuper de nous immédiatement. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, à partir du verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Hébreux, chapitre 12, les versets 4 à 7. Revenons à notre texte. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 33 et 34. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Rappelons-nous que le repas du Seigneur annonce la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. S'il fut institué par le Seigneur, c'est que son sacrifice à la croix revêt une très grande importance. Jésus-Christ crucifié doit demeurer au centre de l'enseignement dans toutes nos églises chrétiennes et évangéliques. Jésus est vivant et il reviendra un jour. Si nous profanons ce repas en y provoquant du désordre et de la controverse, nous serons jugés par le Seigneur. Ce n'est pas un rituel qui nous mérite des bénédictions que nous pourrions perdre pour une question de forme. C'est la communion intime avec le Seigneur qui nous apporte des bénédictions. C'est lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus qu'il se révèle à nous. Le repas du Seigneur est une occasion de nous rapprocher de lui, de pouvoir vivre ce repas dans son intimité. En tant qu'Église et en tant que croyant. Paul n'a pas tout réglé ce qui n'allait pas dans l'Église de Corinthe. Cependant, il ne voulait pas le faire par lettre. Il précise qu'il s'occupera des autres choses lorsqu'il visitera l'assemblée de Corinthe. Paul, comme un bon berger, va prendre le temps de se déplacer et de se rendre à l'Église de Corinthe pour corriger le reste des problèmes. Même chose pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre pour corriger, pour apporter de la lumière là où il y avait le problème de l'homme, c'est-à-dire son cœur. Il vient pour établir une relation personnelle. Il vient pour se faire connaître. Il vient pour se révéler à chacun d'entre nous. As-tu cette intimité avec Jésus? As-tu établi cette relation? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 7.
Merci, Régin. On a pu voir aujourd'hui à quel point Dieu déteste le désordre parmi ses enfants. Et on a vu l'importance de célébrer le repas du Seigneur avec ordre et respect, nous rappelant ce que Jésus a fait pour nous en mourant sur la croix. Mais ce qui m'a particulièrement touché aujourd'hui, c'est l'accent que Régin a mis sur le 24e verset du 11e chapitre de la première épître de Paul aux Corinthiens. Permettez-moi de vous le lire de nouveau. « Et après avoir rendu grâce, Jésus rompit le pain et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et Régin a dit au sujet de cette parole de Jésus, « Notez ce que dit le texte, après avoir rendu grâce. » Le Seigneur a rendu grâce alors qu'il était sur le point d'aller à la croix. Le péché frappait à la porte de la chambre haute. Il exigeait la tête de Jésus. Et c'est à ce moment-là que Jésus a rendu grâce. Quel amour! Mes amis, ça me touche tellement. Je pourrais même dire que ça me bouleverse de penser que Jésus a remercié son Père pour le sacrifice qu'il s'en allait accomplir pour nous sur la croix, pour son corps qui serait rompu pour nos péchés, pour mes péchés, pour tes péchés. Quel amour! Je crois qu'il n'y a pas de mots dans notre vocabulaire pour décrire la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Dans sa première épître au 3e chapitre, au 1er verset, Jean nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et dans son épître aux Romains, au 5e chapitre, au verset 8, Paul nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand je pense que Jésus se réjouissait du fait qu'il s'en allait souffrir et mourir sur une croix, pour moi personnellement, ça me touche tellement. Mon ami, c'est pour toi aussi que Jésus est allé donner sa vie. Et c'est ce même Jésus qui voit ta douleur en ce moment et qui te dit, comme tu peux lire dans le livre de l'Apocalypse, au 3e chapitre, au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mon ami, Jésus frappe à ta porte maintenant. Il ne te forcera pas à l'ouvrir. Il te laisse libre. À toi de choisir si tu veux avoir la vie éternelle ou pas. À toi de choisir si tu veux souper avec lui, si tu veux cette intimité éternelle avec Dieu ou non. Mais je t'en supplie, ne laisse pas passer l'opportunité de recevoir Jésus comme ton sauveur, comme ton maître, aujourd'hui même. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Repens-toi. Détourne-toi de ta vie de péché. Jésus a payé ta dette en entier. Il l'a payé en mourant sur la croix. Et maintenant, tu n'as qu'à lui demander de te sauver, de te donner la vie éternelle. Reçois ce cadeau comme quelque chose que tu ne mérites pas. On ne le mérite pas, personne, on est tous pécheurs. Réalise l'enfer que tu peux passer sans Dieu et choisis le ciel. Aujourd'hui même, tu peux choisir le ciel, tu es libre. Dieu ne te force pas, mais reçois, je t'en supplie, Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Reçois ce don gratuit de la vie éternelle.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Hein? Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
oui,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu. Du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.